Ce sera bientôt la fin de la saison de rencontres avec, et comme un rituel, une sorte de rituel, nous faisons le bilan de la saison et puis nous ouvrons des perspectives avec Sandrine Veil. Bonjour.
Bonjour.
Eh oui, c'est elle qui tient solidement les rênes de ce rendez-vous hebdomadaire sur la radio, un rendez-vous qui a été initié. Alors, je suis pas très bon en maths, mais je vais voir si ma mémoire va m'être fidèle. Je crois qu'on a commencé depuis 2-3 ans maintenant.
Deux ans. C'était la deuxième saison. Moi, je m'en souviens.
Et pour cause. Ce n'est pas un ovni, mais il y a un univers qui tourne autour de la littérature, le cinéma.
On va dire les questions, je dirais en fait, l'intellectualisme, penser comme un humanisme.
L'intellectualisme, penser comme un humanisme. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, parce qu'à chaque fois je dis « Oh, ça fait longtemps qu'on entend cette voix sur la radio » et les gens me disent « Mais non, il y a rien d'injurieux à dire que voilà, il y a des gens qui ne me connaissent pas. » Alors, vous êtes professeur.
Oui, je suis professeur de lettres et cinéma au lycée Stournel de Constant à La Flèche et depuis cette année aussi à la Nouvelle Chance au Mans, pour des élèves en abandon scolaire.
Et ce rendez-vous, Rencontre avec, dont le nom est si évocateur, pourquoi l'avez-vous pensé? Parce que c'est vous qui l'avez pensé. Dans quel but?
Le but, c'était d'abord de... En fait, j'aime beaucoup parler. Et c'était de continuer le dialogue avec d'abord mon père qui venait de décéder. Sachant qu'on discutait énormément, tous les soirs, on devait passer une heure au téléphone à discuter de questions diverses et variées, en particulier de littérature, mais aussi de cinéma, mais aussi de politique, enfin des questions qu'on se posait, auxquelles on essayait de répondre ensemble. Et donc, c'était un dialogue extrêmement riche. Je ne voulais pas le perdre et je voulais le continuer. Et j'ai voulu aussi continuer le dialogue avec mes élèves pour qu'ils puissent aussi y retourner. Parce que je me suis aperçue aussi pendant le premier confinement, en particulier, que les élèves, en particulier ceux qui sont en difficulté scolaire, c'était formidable pour eux d'avoir une trace sur laquelle ils pouvaient retourner quand ils voulaient et qu'ils augmentaient leur performance de manière incroyable parce que ça ne suffit pas. C'est compliqué ce qu'on dit en classe. Ça ne suffit pas d'écouter une fois, même si on a écouté. Et que parfois, il faut y revenir. Moi-même, j'écoute parfois plusieurs fois la radio. Ou un film, je le revois plusieurs fois, je découvre toujours des choses nouvelles, un livre aussi. En fait, une fois ne suffit pas, il faut y revenir pour comprendre, pour redécouvrir aussi des choses. Et je me suis dit, la radio, c'est un formidable moyen de laisser une trace qu'on peut écouter quand on veut.
Et oui, surtout qu'aujourd'hui, on n'écoute plus la radio comme on le faisait dans le temps, où il fallait être là au moment où l'émission était diffusée. Et là, maintenant, il y a une page sur le site internet de Radio Prévert.
Oui.
Et cette page, je sais qu'elle a une histoire particulière, puisque les auteurs, vous ne recevez pas que des auteurs. Les personnalités que vous recevez, eh bien, la regardent, ils vont sur cette page et... elles se disent, ces personnalités-là, voilà quelque chose, une trace, qui laisse voir ce monde d'intellectualisme teinté d'humanisme dont vous parliez à l'instant.
Oui, c'est ça. Je pense que ça me permet aussi de continuer le dialogue avec des gens que j'ai rencontrés avant, de garder le lien avec ces personnes et de continuer à se poser des questions.
Et ces questions, avez-vous trouvé des réponses ou vous vous situez dans le registre toujours de la recherche perpétuelle?
J'adore le registre de la recherche perpétuelle. C'est-à-dire que j'ai été élevée comme ça dans l'idée qu'à une question, il n'y a pas qu'une réponse, il y en a plusieurs. et que même si on a cru avoir une réponse, il faut apprendre. Et j'ai entendu Michel Perrault qui disait ça sur France Culture. Elle a dit qu'elle avait appris à penser contre elle-même.
C'est drôle parce que quand on s'est vu ce matin pour préparer cet entretien ultime hein, pour clôturer cette saison, et on parlait de ça, voilà, de ces débats qui sont dans l'actualité depuis des années. On évoquait des débats qui étaient déjà là depuis 40 ans, voire plus. Et vous me parlez de ça.
Ben oui, oui. En fait, moi, ce que je trouve passionnant dans l'enseignement, mais aussi dans la réflexion intellectuelle, c'est de s'apercevoir que, justement, c'est ce que je disais, sur des choses qu'on a vues, des livres qu'on a lus, tout d'un coup, on découvre qu'on était... Je ne sais pas si c'est une forme de déni ou en tout cas, on n'avait pas vu quelque chose qui nous apparaît maintenant comme étant clair. Mmh. Et par exemple, il y a une question qui est vive actuellement, c'est la question du consentement qu'on aborde en particulier avec l'étude d'Olympe de Gouges, puisqu'elle la pose clairement, cette question du consentement, la question aussi de la manière dont les femmes se conduisent dans la société, dont elles se montrent... elle le dit, hypocrite par éducation. Et bon, voilà, ça permet en fait de relire les textes, dont notamment Les liaisons dangereuses de Laclos, et de s'apercevoir, par exemple, que Valmont est un violeur. Ce que j'avais jamais posé ce mot comme ça.
Et là, on est en train d'anticiper sur les projets pour la prochaine saison. Mais avant, on va quand même faire le bilan de cette deuxième saison, ce que vous en tirez, puisque vous avez rencontré des gens, vous avez initié des projets aussi avec vos élèves. Hein. Il y a eu la 14e édition du Festival d'Estournel. Comment vous l'avez vécu, cette deuxième saison ?
Extrêmement riche intellectuellement. Galvanisante et je dirais que ça m'a tenue toute l'année. C'est beaucoup de travail de faire cette émission toutes
bravo.
Les semaines.
Je sais pas comment vous faites, mais tenir un rythme hebdomadaire, bravo, chapeau bas, Sandrine Veil.
c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de réflexion, mais c'est tellement riche. Enfin, j'ai l'impression d'apprendre tout le temps. Ça m'a obligée aussi. Je suis quelqu'un qui ne va pas forcément vers les autres, mais sous ce statut-là, bonjour, je viens faire une émission pour Radio Prévert. J'ai des questions à vous poser et ça m'oblige à sortir de l'admiration, parce que j'ai tendance à être un peu fan quand je rencontre les auteurs, notamment, à être oh, « il est c'est merveilleux » et à me dire « mais... » Qu'est-ce que j'ai envie de savoir, en fait ? Quelle question ? J'ai envie vraiment de... Pourquoi j'ai aimé ce livre ? Dépasser ce qu'on demande d'ailleurs aussi aux élèves, le « j'aime, je n'aime pas », et sortir de ça et dire « mais qu'est-ce qui m'a remué comme ça ?» Voilà. Et essayer de leur faire dire. Et en fait, quand on... Et puis d'être accompagnée souvent par des élèves pour faire ça... Ça me permet de me cacher aussi un petit peu.
Est-ce que vous y arrivez toujours à dépasser ce stade-là de la fan de littérature ? Vous êtes férue de littérature, mmh. Vous êtes férue de cinéma, vous êtes férue de pas mal de choses. Hein. On parlait de patrimoine mmh. aussi au détour de nos entretiens, de nos échanges. Est-ce que vous réussissez à faire cette bascule-là en disant « là, ok, il faut que je mette les pieds dans le plat, comme on dit ».
Oui, bah justement, le statut de journaliste, entre guillemets, le permet, mmh. puisque je suis plus la fan, j'ai des questions à poser. Et j'essaye de faire en sorte qu'elles soient un petit peu... Alors, je les donne la plupart du temps aux gens avant. On se met d'accord sur les questions qu'on va poser, on les prépare, on dit ensemble l'ordre. Mais il n'est pas question de ne pas poser des questions un peu qui fâchent.
C'est ça. Tout doit être dit.
C'est ça. Essayer d'être, pas en étant désagréable, mais ou, enfin voilà, poser vraiment les questions pour que ce soit aussi intéressant pour aussi celui auquel on pose ou celle auquel on pose la question. C'est ça qui est intéressant.
Est-ce que pour ces rendez-vous, vous dites « Ok, bah, je vais privilégier telle thématique » ou alors c'est au gré de vos rencontres justement, puisque le programme porte le beau nom de « Rencontre avec ».
Alors, le fait que ça s'appelle « Rencontre avec », ça m'a permis d'aller un peu dans tous les sens. Et j'avais un peu l'idée cette année que j'allais me faire un programme à l'avance. J'avoue que j'ai suivi le fil du vent. C'est-à-dire que j'avais l'intention de dire, bon alors, de programmer même sur l'année, pourquoi pas, tout ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai pas suivi mon programme. J'avais écrit un programme et finalement, je ne l'ai pas suivi. Donc, j'ai encore des sujets qui attendent. Il y en a certains où je ne rencontre pas forcément quelqu'un, ne serait-ce que parce qu'il est décédé. Donc, c'est difficile de lui parler en direct. Donc, ça demande beaucoup d'écriture. Mais voilà, j'ai été au fil du vent, au fil des rencontres, effectivement, du programme en lettres. À premier plan, par exemple, il y a eu la rencontre avec Florence Mial, La Traversée, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et la personne est d'une richesse intellectuelle exceptionnelle. Ça m'a nourri pendant quelques temps, par exemple, d'écrire cette fiche pédagogique, de travailler aussi sur certains lemchos, mais en particulier sur un roman dont j'ai oublié le titre, qui raconte en fait l'histoire du réalisateur et qui me fait découvrir qu'il était juif, j'étais pas du tout au courant, et qu'en fait, il écrit pour retrouver sa mère. Et je me dis, mais... Voilà, et ce rire, c'est le rire du désespoir, en fait. C'est un rire de la dénonciation. Et là, je me dis, ah, mais il y a une autre lecture possible de certains lemchos. Je la propose, par exemple, au Festival Premier Plan, en disant, mais tout a déjà été écrit sur certains lemchos, mais pas ça. Voilà. Et je m'aperçois qu'il est le premier à avoir fait un film, un documentaire sur le retour des camps. C'est le premier, le vrai premier. Je m'aperçois de ça. Je vois le film. Et donc voilà, grâce au fil des objets que je rencontre et des personnes, je me dis ah, mais j'avais pas vu ça. Je croyais certains lemchos, je l'avais déjà vu au moins 10 fois dans ma vie. Je n'avais jamais vu ça. Donc ça, c'est pour moi, c'est un plaisir incroyable de faire ces découvertes là.
De découverte en découverte, donc, il y a eu d'autres rencontres aussi. Et moi, on fait pas de classement. Moi, je sais que un des grands moments aussi de rencontre avec, surtout pour cette deuxième saison, c'est avec Madame de Coq, évidemment.
Oui, alors Madame de Coq. Alors elle, j'ai été à sa rencontre toute seule parce que. Ça fait quand même un certain temps que je me pose des questions sur ma posture de professeur et que j'ai vécu une chose que peu de gens ont vécu, c'est-à-dire que je l'ai vécu, la pédagogie Freinet dont elle parle. Elle a écrit donc un livre d'histoire à la portée de tous qui s'appelle « Une journée fasciste » et qui est sur la pédagogie Freinet, enfin pas tellement sur la pédagogie Freinet que sur l'histoire politique de Freinet. Et donc moi, Freinet, je l'ai toujours connu, si j'ose dire, même si je ne l'ai pas connu puisqu'il était déjà décédé quand moi j'étais à l'école maternelle, mais j'ai connu ce que c'était que la pédagogie Freinet. Ça m'a formée intellectuellement. Ça m'a appris à être une enfant qui savait parler, qui savait dire oui, qui savait dire non et pourquoi, qui était capable de défendre ses opinions. Et puis, je me retrouve à l'école normale, en CP. Et là, ça a été une longue violence pour moi, mais vraiment. Jusqu'en seconde, où je redouble ma seconde. Et là, j'intègre l'idée quand même que je ne suis pas très intelligente, puisque je suis en échec scolaire carabiné. J'intègre l'idée que je suis pas très intelligente. Mes parents me disent que non, je suis intelligente, mais je me dis que c'est parce qu'ils m'aiment. Les profs me disent que je suis idiote. Je me dis, je vais rien pouvoir faire de ma vie, en fait. Et puis, j'entre dans un lycée hors contrat que mes parents payent fort cher, où là, on me reparle comme à quelqu'un qui comprend. Et je comprends. Voilà. Et je ne voulais pas être professeure. c'était hors de question. Je détestais les profs, en fait. Mes parents étaient profs, je les admirais. Je me disais, mais en fait, il n'y a que mes parents qui sont des profs formidables. Et les autres, enfin, ceux que j'avais rencontrés, pas tous. Voilà, ils étaient infernaux. Et je retrouve des profs extraordinaires à la fac. Mmh. Vraiment extraordinaires, dont Francis Marmande, toujours vivant. Marie de Pucé, qui était extraordinaire. Enfin, c'est des personnages de roman, tellement... Enfin, moi, j'allais à leur cours comme on va à un concert de rock. J'arrivais une demi-heure, trois quarts d'heure avant. Si j'avais osé, à l'époque, j'aurais enregistré leur cours. Je pense qu'ils m'auraient autorisé parce qu'ils étaient quand même aussi dans la transmission et ils savaient qu'ils faisaient des cours remarquables. Parfois, ils faisaient leurs cours ensemble. J'ai eu aussi celle qui est toujours vivante aussi, spécialiste des contes, dont je suis en train d'oublier le nom, alors que je ne connais qu'elle. C'est pareil, ses cours, c'était des contes. Et j'ai tout appris avec ces gens. Et ils m'ont donné aussi liberté et la possibilité d'écrire des choses, des mémoires de recherche, déjà, dès la première année de fac, me donner l'impression que j'étais très intelligente et que j'avais lu. Alors que, pas tant, enfin, je lisais beaucoup, mais je me suis aperçue que j'avais rien lu. et nous ouvrir les portes de, justement, de l'intellectualisme comme un humanisme. Mmh. Toujours se poser des questions, toujours réfléchir, toujours relire. La Princesse de Clèves, par exemple, la lecture qu'en faisait Marie de Pucé, c'était extraordinaire. Donc, là, je me dis, je veux devenir éditrice à ce moment-là. Mais je ne deviens pas éditrice parce que je fais pour gagner un peu ma vie, je deviens surveillante. Et là, je me dis, ben en fait, c'est quand même là qu'il faut que je sois. C'est ma place, c'est la transmission. Mmh. J'ai envie de faire en sorte de rendre ce qu'on m'a donné quand même. Et de faire en sorte que le savoir, ça soit ce que dit Victor Hugo. Dans un de ses poèmes magnifiques qui est tombé au bac, d'ailleurs, quand j'étais surveillante, savoir étant sublime, apprendre sera doux. Mmh. Et parce qu'effectivement, le savoir, c'est violent, ça nous renverse. Il y a des fois, c'est justement ce que je disais, penser contre soi-même, tout d'un coup, se dire mais je croyais ça, et puis on m'a appris ça aussi, mais c'est pas ça. Et c'est comme ça, en fait, dans toutes les matières, en sciences aussi. Tout d'un coup, on s'aperçoit que tout ce qu'on croyait savoir est faux. Bah, c'est toute la philosophie de Socrate, hein, par exemple. Le « je sais que je ne sais rien ». Mais c'est extraordinaire. Et je me dis, effectivement, ça, c'est violent, mais il faut faire en sorte que, par contre, en classe, c'est pas violent. Entre nous, ce qui n'empêche pas de se fâcher, de se dire des choses, etc., mais c'est pas violent entre nous. On fait en sorte de s'écouter et de permettre aux jeunes de parler et d'écouter vraiment d'écouter leurs paroles. Et voilà comment je suis allée vers Laurence de Coninck, parce que je voulais qu'elle réponde à ces questions-là, là justement sur la libération de la parole des enfants, mais aussi sur pourquoi finalement freinait à la fois c'est un espèce de marronnier dans l'éducation nationale, et en même temps il n'existe pas. Et pourquoi on n'ouvre pas la culture vraiment à tous ? Sachant que j'ai fait mon mémoire de recherche, moi, sur la lecture plurielle. Et la lecture plurielle, c'est l'idée qu'un livre, quand je le lis, il y a plusieurs lectures possibles. Okay. Et comme nous l'a dit Yakuta Alikavazovitch, le livre appartient à son lecteur. Une fois qu'il est publié, c'est terminé, il n'est plus à l'auteur. Et il peut y avoir plusieurs interprétations, alors qu'ils peuvent être, comme j'ai dit, l'histoire, mais aussi parce qu'il y a plusieurs lecteurs et plusieurs âges et plusieurs... Et qu'on en lit, on va interpréter les choses différemment. Et que je me suis aperçue, par exemple, en tant que prof de français, qu'un élève qui avait lu le résumé d'une œuvre s'en sortait mieux, sur un contrôle de lecture, même beaucoup mieux, il pouvait avoir 20, qu'un élève qui avait lu, mais pas compris comme on voulait qu'il le comprenne. Et que donc celui qui avait fait le véritable effort était pénalisé. Et ça, tous les élèves le savent, par exemple. Donc, comment faire pour que... C'est des questions que je me pose. Pour que dans l'éducation nationale, on arrive à redonner l'envie de lire, parce que c'est un truc, à mon avis, essentiel, aux élèves, et pas leur dire, mais regarde, il n'y a que ça. Enfin, tu vois, il n'y a qu'une interprétation, et c'est celle que je te donne. Voilà. Sauf que non, C'est plus complexe que ça. Bien sûr, il y a, le contresens existe, mais en même temps, il a un sens, ce contresens. Moi, par exemple, quand j'ai lu Le blé en herbe de Colette, quand j'avais 11 ans, eh ben, j'ai pensé que qu'il n'était pas du tout amoureux de la vieille bonne femme qui est Colette, en fait, et que c'était une sorte de viol. Or, ce n'est pas du tout ça que raconte Le blé en herbe. C'est une véritable histoire d'amour entre un jeune homme et une femme de 50 ans. Mais je ne voulais pas. Je savais lire, je comprenais, mais je ne voulais pas que ça raconte ça. C'était insupportable pour moi, donc j'ai modifié l'histoire. Et quand je l'ai relu, quand j'avais 20 ans, j'ai dit, mais voilà. Et si j'ai choisi, par exemple, l'amant de Marguerite Duras pour mon mémoire de recherche sur la lecture plurielle, c'est parce que c'est justement encore un autre livre que j'ai lu trop tôt, à mon avis, j'avais 14 ans, et qui m'a fait violence absolue, que j'ai détesté, et que je voulais même jeter par la fenêtre, tellement je l'ai détesté. Que je trouvais, je comprenais pas pourquoi tout le monde autour de moi, puisque j'étais dans une famille d'intellectuels, tout le monde disait c'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Je dis mais c'est de la merde, c'est même mal écrit, etc. Et quand je le relis à la fac avec Francis Marmande, qui connaissait en plus Marguerite Duras, là je me dis mais c'est une très grande autrice et j'ai tout lu d'elle et j'ai adoré. Mais ce que j'avais perçu de la violence, je l'ai oublié. C'est-à-dire que j'avais et là je l'ai retrouvé là récemment en réétudiant avec les élèves l'amant.
Et c'était quoi ?
Ben c'était la question du viol. Que en fait, il s'agit de la réécriture, c'est le mentir vrai que fait Colette. Il s'agit de se re-raconter sa vie pour en modifier ce qu'on fait parfois quand on vit quelque chose de désagréable dans la journée, que le soir on se re-raconte le truc ou qu'on le re-raconte à d'autres. En disant « Ouais, non, mais je lui ai répondu alors qu'on n'a rien répondu en vrai. » Et donc là, pour moi, et c'est quand on regarde l'extrait, et c'est incroyable de la rencontre soi-disant amoureuse entre elle et le chinois, celui qu'elle appelle le chinois, en fait, c'est une histoire, quand elle entre dans l'entonnoir, quand elle dit en plus, elle parle de tout ce brouille, etc. Et elle va se retrouver l'objet sexuel d'un homme de 30 ans alors qu'elle en a 15. Mais ça, première fois que... Et pourtant, j'ai fait une analyse, j'ai rencontré des gens. En fait, la lecture plurielle, j'ai fait des interviews, déjà, de 15 personnes de tous âges pour savoir quelle était leur lecture de l'amant. Et pourtant, ils me le disent. Ils me disent, ouais, il y a de la violence. C'est pas une vraie histoire d'amour, c'est une réécriture d'une histoire. C'est une histoire de violence transformée en histoire d'amour. Et d'ailleurs, moi, quand je fais le résumé, j'écris comme une histoire d'amour. Mais c'est pas effectivement... Le réel, c'est ça. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Elle dit « L'histoire de ma vie n'existe pas ». Et donc, elle réécrit cette histoire. On n'a même jamais réussi à retrouver cet homme, en fait. Alors qu'il y a eu des biographies, à un moment donné, qui disaient « Il s'appelle un tel » et il est... Enfin, voilà. Mais en fait, c'est faux. Tout ça est faux. Donc, elle a vraiment été dans le mentir vrai et elle a certainement subi des violences sexuelles. Elle s'est prostituée, en fait. C'est aussi la question du consentement là, qui revient. Donc, elle était d'accord. Mais lui avait 30 ans. On est dans une histoire d'emprise. Il était très riche. C'est ce qu'elle raconte. Elle le dit, en plus. Je veux dire, les choses sont écrites. Et là, il y a un livre que je n'ai pas encore lu qui s'appelle « En finir avec la passion » et il y a un chapitre sur l'amant. Mais ce n'est pas étonnant. Je veux dire, on est en train... d'ouvrir les yeux, et je trouve ça extrêmement passionnant, et c'est ça là, moi je me dis ça quand on travaille ça avec les jeunes, mais c'est passionnant, c'est aussi leur ouvrir des perspectives en se disant mais oui, je peux lire ça comme une super histoire d'amour, un truc un peu niais, c'était ce qui m'avait aussi énervé, un peu ridicule, voilà, elle est très belle, il s'avance vers lui, enfin bon, elle s'avance vers lui, il s'avance vers elle, etc. Des choses comme ça. Et on peut aussi y voir plusieurs couches, on peut voir, mais dans toutes les œuvres en réalité. Alors. Quand elles sont réussies, elles ont plusieurs niveaux de lecture et elles contiennent des secrets. Et c'est ça, c'est merveilleux.
Alors Sandrine Veil, vous parlez de perspectives, justement. Quelles sont pour les auditeurs de Radio Prévert les perspectives auxquelles il va falloir qu'ils s'attendent pour cette troisième saison qui arrive, d'autant que vous êtes vraiment occupés, mais je sais que vous ne manquez pas d'idées, vous ne manquez pas de projets.
Alors, je pense que je vais continuer à travailler sur les portraits de Fléchois et de personnalités fléchoises, parce que j'ai trouvé que la question de la mémoire était passionnante, et dans tous les domaines. Je suis curieuse de mieux connaître la ville de La Flèche, qui a une histoire incroyablement riche, sur le plan religieux, par exemple, aussi. Et puis, j'ai découvert qu'après la mort de mon père, qu'il y avait des Juifs à La Flèche. Parce qu'il y a eu un article dans le Maine Libre et dans Ouest France aussi, je crois, enfin dans les journaux locaux, qui recensait les Juifs fléchois. Et j'ai découvert qu'il y avait des Lévis qui avaient deux magasins à La Flèche, dont un à Sablé, qui ont perdu tous leurs biens, etc. Voilà. Il y a plein de documents sur eux, y compris des lettres que Louis Lévy a écrit au préfet pour essayer de récupérer un peu de biens. Et puis ces gens font partie de ceux qui ont souffert énormément pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne sont pas vraiment répertoriés, qu'il n'y a pas d'hommage pour eux, parce qu'ils ont échappé à la mort. Ils ont fui. Et ils ont réussi à récupérer ensuite leurs biens. Mais ce qui m'interroge, c'est pourquoi ils sont partis définitivement de La Flèche alors qu'ils y étaient au moins depuis 1928, d'après mes recherches. Donc depuis un certain temps, et ils étaient des notables, puisqu'ils avaient deux magasins de vêtements. Donc je me demande pourquoi ils sont partis, quelle est la mémoire oubliée, effacée là-dessus. Ça me pose des questions, j'ai envie de travailler là-dessus avec... si possible avec Lydie Marlin, qui a fait un formidable documentaire qui a beaucoup touché, qui s'appelle Papier Stéo, et qui parle aussi d'une autre histoire, parce qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a que ça, des histoires de méconnues, en fait. Là, sur le travail obligatoire, qu'on a tendance à associer à la collaboration. Or, en fait, la plupart des gens qui ont subi, comme je le dis, le travail obligatoire, en fait, ils ont été quasiment enlevés dans la rue parfois pour partir pendant 2 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Et certains sont morts et ne sont jamais revenus. C'est ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 600 000 hommes qui ont vécu ça. Effectivement, en fait, ce dont je me suis aperçue depuis qu'on a passé le film à La Flèche, c'est que tout le monde me dit « Ah oui, dans ma famille, merci de raconter, parce que ça redonne aussi de l'honneur à leur... » c'est des hommes, à leur père, qui n'ont aussi pas raconté cette histoire parce qu'on les a traités de collaborateurs, parce qu'ils n'ont pas été résistants. Mais qui était résistant ? Enfin, pour résister, il faut... moi, c'est ce que je dis toujours, une victime, c'est rare, en fait, les victimes qui résistent. Il faut en avoir les moyens, à la fois intellectuels et financiers. Il faut donc avoir été formé intellectuellement pour pouvoir résister. Sinon, on ne résiste pas, on essaye de survivre. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et c'est, entre autres, des grands traits de ce à quoi va ressembler cette troisième saison.
C'est ça.
Toujours avec le concours de vos élèves, oui. De l'option cinéma.
Oui, toujours avec eux, parce que j'aime bien les associer, j'aime bien aussi qu'ils apportent pourquoi pas leurs questions. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment fait, parce que ça demande du temps en plus en classe. Pour l'instant, je l'ai vraiment conçu comme étant comme l'a fait, je l'ai découvert cette année justement en faisant une rencontre avec sur la biographie de Colette Cosnier, comme l'a fait Colette Cosnier, un complément de cours, quelque chose pour approfondir si besoin. Voilà, on y va si on veut, si on veut pas y aller, on n'y va pas, mais si on veut approfondir, on peut.
C'est dit, bravo, félicitations, courage, parce que le rythme hebdomadaire, je le redis encore une fois, c'est quelque chose d'assez soutenu. Ça a l'air de rien comme ça, mais voilà, il faut s'y tenir.
Oui.
Et sur des sujets de fond, il faut préparer, il faut caler la rencontre, et il faut enregistrer, il faut monter. Et voilà, c'est beaucoup de choses. Bravo,
oui.
À vous.
Je vous remercie.
Je vous en prie, les auditeurs qui sont pour certains, je vous en ai fait écho, hein, qui à chaque fois, ah oui, j'écoute, j'ai entendu telle émission, je vais réécouter. Voilà, donc ils vous écoutent et puis ils seront, j'en suis sûr, encore fidèles au rendez-vous de cette troisième saison de Rencontre avec. Bah, dites-le vous-même parce que vous le dites mieux que moi.
Rencontre avec.
C'était Sandrine Veil sur Radio Prévert. Bonne fin de saison et puis à la saison prochaine alors.
Merci, à la saison prochaine.
Merci madame, c'est nous qui vous remercions.